Pauline Pucciano, Titania 4.0, chapitre 11, le procès. Les écrans virtuels affichaient le spot publicitaire annonçant le procès à intervalles réguliers. Sur une musique de Vivaldi, des photos de Titania, de Jean et de Mito, des extraits mystérieux de leurs vidéos et la voix savamment amplifiée de Stéphane Locard défilaient comme en un manège infernal. Jean cependant n'y prêtait pas attention. Il fit le tour de la chapelle circulaire pour la 10e fois. Tout était conforme à sa visite précédente, depuis le puits de lumière qui ne laissait filtrer que la rougeâtre nuit parisienne, jusqu'aux bas-reliefs indistincts qui se perdaient dans les hauteurs, en passant par les niches vides et les dalles froides qui imprégnaient l'espace de leur odeur de cimetière. Cette chapelle portait le nom de chapelle expiatoire, et c'est en partie pour cela qu'il l'avait choisie, parmi les centaines d'édifices religieux abandonnés de la capitale. Pour cela, et parce qu'elle restait associée au régicide de Louis XVI. Quel endroit aurait pu mieux célébrer la portée politique de leur action? Depuis que la mafia avait racheté le Vatican à la fin du XXIe siècle et après la désétatisation, les églises avaient périclité. Difficiles à chauffer, extrêmement chères à restaurer, ces bâtiments n'étaient plus rentables pour personne. Les plus belles avaient été rachetées par Lyd pour l'industrie du cinéma, les autres tombaient doucement en ruine et il n'était pas difficile de s'y introduire. Il vérifia l'extérieur. La chapelle était enclose dans les murs d'une sorte de jardin où un service d'ordre de Happenings avait pris ses quartiers. Locard s'était montré très prudent sur la sécurité et n'avait rien lâché sur la localisation de l'événement. Mais malgré ses précautions, il semblait certain qu'un assaut serait lancé pendant la manifestation. Il avait loué les services de ces mercenaires cyberarmés qui hantaient les couloirs de cet étage souterrain de l'identitemple qu'on surnommait l'enfer. « Des démons dans une chapelle », songea Jean. Les techniciens étaient en train d'achever leur réglage et se plaignaient notamment des conditions de lumière. Après un regard au projecteur professionnel qui illuminait l'hôtel comme en plein jour, Jean les ignora et se tourna vers les 2 douzaines de courtisans qui avaient été autorisés à former le jury du procès. Ils étaient pour la plupart vêtus de tenues extravagantes, au sommet de leur self-art, et échangeaient dans la pénombre des murmures pleins d'excitation. Puis, il ouvrit la porte de la sacristie et trouva Titania et Mito, qui paraissaient en grande conversation. « Jean, qu'est-ce que tu fais? Il faut t'habiller, on commence dans 3 minutes !» Titania avait revêtu la robe rouge et noire du procureur, et Mito, la tenue noire et blanche de l'avocat. Jean, qui jouerait le rôle du juge et du président de la cour, n'avait qu'à enfiler un manteau bordé d'hermine et à se saisir du marteau géant que Titania lui avait déniché. Un marteau digne d'un cartoon qu'on aurait volontiers imaginé aplatissant quelque animal facétieux. Les poupées, entassées dans la sacristie, faisaient le même effet burlesque, mais la potence, la guillotine, le sabre, le pistolet, malgré leurs couleurs criardes et leurs proportions stylisées, apportaient une note grinçante au décor. « Par qui on commence déjà ?»« Par l'agent Les Tourneaux, » répondit Jean, en enfilant le manteau bordé de fausses fourrures. « J'aime autant vous dire que nous allons avoir chaud là-dedans. » « Et ce sera tant mieux, parce que cette chapelle est froide comme un tombeau, » dit Titania. Mito prit la poupée figurant Les Tourneaux et la tint tout contre lui, à la façon d'un ventriloque. Elle avait la taille d'un grand enfant. Un képi des temps anciens et un uniforme qui n'avait plus cours depuis longtemps l'identifiaient comme un policier. « Ça va, Jean ?» Titania, dans cette robe rouge et noire qui rehaussait la blancheur de ses cheveux et le violet éclatant de ses yeux, semblait presque électrique. Son excitation était sensible, palpable. « Je suis anxieux, mais ça va, » répondit-il. « Il faut être anxieux, » déclara Mito. « Le trac, il n'y a que ça de vrai. » Le signal qu'ils attendaient, un son d'horloge lugubre, se répandit dans toute l'église et ils entrèrent solennellement. Tandis que Titania et Mito se disposaient à droite et à gauche de l'autel, Jean s'assit derrière. Les 3 premiers rangs étaient occupés par les courtisans, qui semblaient à la fois impressionnés par la présence du service d'ordre et très excités à l'idée de faire partie de la vidéo. Lorsque Titania était entrée en scène, il y avait eu un murmure d'admiration jusque dans les rangs des techniciens, qui se trouvaient derrière, non loin de l'entrée principale, avec leurs drones et leurs écrans de montage. Derrière la porte, Jean savait que le service d'ordre veillait, même s'il ne pouvait pas le voir. À sa droite, une petite porte latérale donnait dans la sacristie où Mito avait rangé les poupées, et au-delà, vers une issue de secours. Jean tapa de son marteau sur le marbre de multiples fois, puis, par une inspiration subite, finit par les 3 coups du théâtre. « Silence dans la salle » ordonna-t-il. Malgré plusieurs tentatives, il n'avait jamais réussi à faire porter sa voix suffisamment, et Mito l'avait forcé à porter un micro dermique. Il lui en fut reconnaissant lorsqu'il entendit sa voix, puissante et caverneuse, résonner sous la voûte. « Nous sommes ici pour juger 7 accusés, et vous allez, mesdames et messieurs les courtisans, examiner les preuves et entendre les arguments de la défense comme de l'accusation. Nous commençons par le premier accusé, l'agent Letourneau. Accusé, levez-vous. » Mito brandit la poupée en képi et lui fit faire une petite révérence qui fit fuser quelques rires. Les chefs d'accusation sont participation à une association de malfaiteurs, coups et blessures volontaires par voyage en armoire roulante, harcèlement de libertons innocents. Vous êtes également accusé de certains délits mineurs, notamment d'avoir accablé le liberton Jean Corville de votre perfection plastique, de votre dentition parfaite et de votre haleine citronnée, ainsi que d'avoir osé proférer des blagues de mauvais goût. La parole est à l'accusation. Titania fit quelques pas en avant. Elle avait le menton très droit et les yeux pétillants. « Mesdames et messieurs de la cour, l'homme qui est devant vous, ne vous méprenez pas, est un triste sire. Lorsque Morgan Corp, qui fait partie du conseil d'administration de la police, lui a demandé de veiller sur son investissement, en l'occurrence, moi, au mépris de toute déontologie, il s'est empressé d'obéir. Il n'a pas cherché à savoir s'il était juste ou non de s'assurer que je mourrais bien à l'heure convenue. Il s'est montré obéissant, comme un chien de garde, un chien du pouvoir. « Objection, votre honneur !» intervint Mito. Jean commençait à se relâcher en voyant les réactions amusées des courtisans. « Maître ?» Mito fit une grimace comique. « Mon client n'est pas très intelligent, regardez-le. Il sait à peine parler, il n'a pas les idées claires, et en plus, il se bourre de pilules d'amphétamine. » « Objection rejetée. » « L'agent Letourneau ne s'est pas contenté d'obéir. Il a aussi pris des initiatives. Il a exercé un odieux chantage sur le liberton Jean Corville afin de le forcer à espionner pour le compte de la police. » « Quelle sorte de chantage ?» demanda Jean. « Il l'a menacé de le poursuivre pour entrave à la bonne marche de la justice. Oui, mesdames et messieurs, cet agent abuse de son pouvoir. Il a également extorqué des informations au célèbre liberton Stéphane Locard en usant des mêmes arguments. » Un murmure s'élevait dans la salle, tandis que la face de l'hôtel se transformait en écran. Stéphane Locard, dans une interview, racontait avec force détail son voyage forcé en sécuribo. Jean, pendant la diffusion de la vidéo, regarda Titania qui rayonnait. Ils échangèrent un coup d'œil complice, puis il reprit la parole. « Quelle est la réquisition de l'accusation ?»« Je réclame un voyage forcé dans un sécuribo pendant une durée d'une semaine, ainsi qu'un grossissement de 50 kilos. » « Maître Mito, nous écouterons votre plaidoirie. » Mito se racla la gorge et fit durer l'attente. « Excusez-moi, je dois me concerter avec mon client. » Il fit semblant de parler à l'oreille de la poupée et d'écouter ce qu'elle avait à dire, puis, avec un air satisfait, il commença. « Mon client est un pauvre type, messieurs dames. Il n'est pas vraiment méchant, au fond. J'en veux pour preuve un simple fait. Alors qu'il connaissait l'endroit où Titania et Jean s'étaient cachés, il n'en a pas fait état à ses supérieurs. » « Vous voulez dire qu'il a retenu délibérément une information qui aurait pu conduire à notre perte ?» demanda Titania. « Tout à fait, chère consoeur. Et j'insiste également sur un autre point. Mon client a été licencié de l'association de malfaiteurs à laquelle il adhérait. C'est un policier repenti. » Jean, solennellement, s'adressa à la poupée. « Agent Letourneau, votre repentir est-il sincère ?» Mito prit une petite voix et prononça sans bouger les lèvres. « Oui, votre honneur. Jurez-vous d'abjurer la logique du profit ?» « Oui, votre honneur. De ne jamais servir de bras armés à un crime. Oui, votre honneur. De toujours faire passer l'amour, la vie et le bonheur avant tout. Oui, votre honneur. Entendez-vous, mesdames et messieurs de la cour, l'agent Letourneau a abjuré son hérésie. Nous allons nous montrer clément. Agent Letourneau, vous êtes acquitté. » À ces mots, Mito sortit une couronne de fleurs de derrière l'autel et la passa au cou de la poupée. Puis il l'assit sur une chaise dans l'assemblée. Il se dirigea ensuite vers la sacristie, dont il revint bientôt avec une poupée gonflable déguisée en policier. Le second accusé, ou plutôt la seconde accusée, fait également partie de la police. Il s'agit de l'officier Karine Dubreuil, chef d'accusation, participation à une association de malfaiteurs, meurtre au premier degré sur Elisabeth Corville et sur Édouard Bronski. Des photos des victimes défilèrent sur l'écran. Titania s'avança, et tout dans sa tenue indiquait que la mascarade devenait sérieuse. Contrairement à l'agent Letourneau qui a obéi, pour ainsi dire, passivement aux ordres qu'il a reçus, l'agent Dubreuil s'est montré, quant à elle, particulièrement volontaire et active, et tout d'abord en demandant son incorporation dans une unité spéciale où la police tue des gens. Êtes-vous en train de dire qu'une unité pareille existe vraiment ? Oui, votre honneur. Elle est dirigée par le commandant Lamiel et explicitement dédiée aux liquidations. Par liquidation, vous entendez meurtre ? Oui, votre honneur. Meurtre avec préméditation. Assassinat. Titania laissa un silence assez lourd. Puis la vidéo qui incriminait Dubreuil fut diffusée et l'on entendit la voix modifiée de Jean. Officier Dubreuil, s'il suffisait de lire un rapport pour faire une enquête, nous gagnerions beaucoup en masse salariale, vous ne croyez pas ? Soyez plus précise. Une fois que j'ai localisé et arrêté le prévenu, je lui fais ingérer du cyanure de potassium. Pouvez-vous me décrire les effets ? Rien de plus simple. Perte de conscience dans la minute, puis, au bout de 3 quarts d'heure, coma, le décès intervient en 2 heures, parfois au terme de quelques convulsions. Continuez. Bronski menaçait visiblement de lancer l'alerte sur la dernière génération de RV produit par Lid, et l'enquête était classée prioritaire. Cette enquête, vous l'avez menée à son terme, entièrement seule ? Oui, sur le terrain. J'ai éliminé Bronski à son domicile dans les délais très brefs qu'on m'a impartis. J'aurais aussi quelques questions sur l'affaire Elisabeth Corville. L'affaire Corville ? Elle ne m'a jamais posé aucun problème, je suis surprise que... Nous ne vous faisons aucun reproche, dit Jean. Cette affaire semble cependant liée à des événements plus récents. Vous dites que l'affaire Corville ne vous a posé aucun problème, et c'est en effet ce qui est inscrit dans votre rapport. Cette personne a-t-elle été éliminée selon votre mode opératoire habituel ? Oui, cyanure de potassium. La vidéo s'arrêta sur le visage froid et sans sourcils de Karine Dubreuil, et la voix de Titania retentit dans la salle. Pour l'assassinat d'Edouard Bronski sous les yeux de sa femme, pour le meurtre infâme d'Elisabeth Corville, dont le seul crime était d'avoir cherché la vérité, je requiers la mort. Jean, pris par l'émotion de cet instant qui, malgré les déguisements burlesques, était devenu solennel, articula « La parole est à la défense ». « Ma cliente est indéfendable, » clama Mito. « J'ai beau chercher, je ne trouve aucun argument. Je renonce à la défendre. »« Officier Dubreuil, nous vous condamnons à avoir la tête tranchée. » Une musique funèbre retentit, tandis que Mito sortait de la sacristie une guillotine grand-guignolesque montée sur roulette. Il y plaça, non sans difficulté, la poupée et actionna le couperet. La poupée, avec un chuintement de ballon qui éclate, se dégonfla. Pendant une minute, Jean fut incapable de parler. C'était idiot de se sentir vengé par cette mise en scène, mais quelque chose venait de se dénouer en lui. Le troisième accusé occupe lui aussi une noble fonction, finit-il par dire. Il exerce le beau métier de médecin, j'ai nommé le docteur Fabre. Virevoltant comme un clown, Mito était déjà devant l'autel, tenant entre ses bras une poupée de papier mâché, affublée d'une blouse blanche et d'un stéthoscope. Chef d'accusation, participation à une association de malfaiteurs pour crimes organisés, homicide volontaire à répétition sur des inconnus, tentative d'homicide sur la personne de Titania. « Votre honneur, puis-je me permettre de dire encore quelque chose ?» demanda Titania. « Je vous en prie. J'ajouterai délit d'attitude machiste, mépris de classe, mauvaise foi. »« Très bien. La parole est à la défense. » Comme vous le savez, mesdames et messieurs, le docteur Fabre est un éminent chirurgien. Il a donc presque nécessairement, au cours de sa carrière, sauvé des vies, même si ces dernières années ont malheureusement porté à son crédit plus de morts que de guérisons. J'aimerais aussi vous rappeler, et c'est un point capital, que les victimes de mon client étaient toutes consentantes. Objection, votre honneur. Allez-y. Un HR au bout du rouleau est-il vraiment consentant ? A-t-il conscience de ce qu'il fait ? A-t-il vraiment le choix ? Tous les clients du docteur Fabre n'étaient pas des HR. Nous retiendrons cette objection, dit Jean, et prierons les jurés de garder en tête cette circonstance atténuante. Contrairement à la précédente accusée, le docteur Fabre n'a pas ôté la vie à des gens contre leur gré. De plus, reprit Mito, il a agi dans le cadre de son travail. C'est donc la société Morgan Corp dont il faudrait faire le procès, car il n'est pas directement responsable de son fonctionnement. Nous pourrions dire la même chose de l'officier Dubreuil. Certes. Mais le docteur Fabre n'est pas convaincu d'avoir recherché spécifiquement cette fonction d'euthanasie. Il se peut qu'on lui ait imposé ce type de travail progressivement. Admettons. Que faites-vous du nombre de victimes ? Une 60aine en 5 ans ? Nous retiendrons également, dit Jean, ce facteur aggravant. Mesdames et messieurs les jurés, vous devez maintenant juger sur pièce. Le visage du docteur Fabre apparut à l'écran, mais c'était la voix de Titania qui résonnait. Mais que devais-tu me faire au départ ? Je devais procéder à l'échange. L'échange ? Quel joli mot ! L'échange de quoi ? Je devais mettre le cerveau de mon client dans votre boîte crânienne. Préalablement vidé de son contenu initial, je suppose. Eh bien, oui, évidemment. En d'autres termes, dirais-tu que tu étais censé Me tuer? Je ne l'ai jamais envisagé comme ça. Mais maintenant, docteur Fabre, maintenant que tu prends le temps d'y songer. Oui, j'étais censé vous tuer. C'est bien, docteur, c'est presque fini. Il va juste falloir me dire pour combien de contrats spéciaux tu as déjà opéré ce fameux échange. C'est une information confidentielle, je... Oui, oui, ma griffe est confidentielle, elle aussi. Une soixantaine. En combien de temps? En 5 ans. Un meurtre par mois, dis donc, c'est une bonne moyenne. Une moyenne très respectable. Je suis impressionnée. Tu te souviens sans doute du nom de quelques victimes? Non, la plupart sont des HR qui n'ont même pas d'identité informatique. Je demande l'aide du jury pour m'aider à trancher dans cette ténébreuse affaire, dit Jean. Le docteur Fabre est-il coupable des chefs d'accusation mentionnés? Les courtisans qui formaient le jury, ravis d'être filmés, se prêtèrent au jeu avec le plus grand sérieux. Ils se concertèrent quelques minutes, puis leur rapporteur se leva. C'était un grand jeune homme vêtu à la mode des années 2090, tout en effet de métal et de transparence. Les aveux sont accablants. À l'unanimité, le docteur Fabre est déclaré coupable. Quelle peine requérez-vous, procureur? La mort. Et vous, maître? La mort est un bien vilain mot, dit Mito d'un air narquois. L'ablation du cerveau devrait suffire. Mesdames et messieurs les jurés, la mort. Le sort en est jeté. Accusé, levez-vous. Mito brandit la poupée vêtue de blanc. Cette cour vous condamne à être fusillé sur le champ. Mito, cérémonieusement, alla attacher la poupée à une colonne, puis il sortit de sa poche un pistolet pour enfant, lumineux et fluorescent. Souhaitez-vous dire une dernière parole, docteur?
J'étais bien payé,
dit Mito, avec une petite voix qui déclencha quelques rires. Puis il s'avança vers la poupée, la mit en joue et tira. Un jet puissant de bulles de savon coloré sortit du pistolet, et Mito ajouta « Paix à son âme de médecin !» La marche funèbre de Chopin, massacrée par une fanfare, retentit. Il régnait dans la salle une certaine tension, en partie due à la présence des caméras, mais également à quelque chose de plus indéfinissable. Derrière cette pacotille, cette parodie enfantine et délirante, on percevait un accent grinçant et terriblement grave. Le procès était une farce, oui. Mais les crimes, eux, étaient vrais et auraient mérité en d'autres temps une justice incorruptible. La voix de Stéphane Locard retentit dans la salle comme s'il en était l'esprit invisible. « Chers raisonnautes, il est temps de marquer une courte pause publicitaire. » Tandis que l'écran diffusait des publicités choisies, une pour Morgan Corp, une pour Hillness, une pour la police de Paris, Stéphane Locard surgit soudain du fond de la salle en grande tenue de direct et vint se placer entre les trois jeunes gens. « Pour le moment, rien à signaler dehors, » souffla-t-il à l'intention de Titania. « Mais votre mère ne va pas tarder à agir. »« La chapelle est reconnaissable? Vous pensez qu'elle a pu l'identifier depuis le début du procès ?»« Oui, ce n'est qu'une question de minutes. Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux changer l'ordre de succession des accusés. »« Pas question, » dit Jean. « Il faut conserver le crescendo. » Titania se mordit la lèvre. « Mais, Jean, si les hommes de ma mère arrivent, nous n'aurons pas le temps de faire son jugement à elle. » Jean n'eut pas le temps de répondre, car le technicien annonçait que le direct reprenait, et Locard se mit à parler face caméra. « Chers raisonnautes, c'est avec beaucoup d'émotion que j'accompagne ce soir, en direct, le collectif Debout dans le temps, qui n'a de cesse de nous enchanter depuis sa formation. Irrévérence, fantaisie, art de la métamorphose, Debout dans le temps nous offre à chaque vidéo un condensé de révolte incandescente. » Restez à l'antenne pour voir jusqu'où l'audace portera nos jeunes insurgés, car ce ne sont plus des criminels anonymes, mais de grands noms du Gotha que vous allez voir ce soir traîner devant leur tribunal. Des aigles habitués à planer très haut au-dessus des lois, et dont la chute vertigineuse vous procurera une indicible sensation de justice. Titania, avez-vous quelque chose à dire à vos centaines de milliers de courtisans? Je suis heureuse d'avoir pu mener à bien ce projet, d'être debout ce soir. Votre mère, Irina Morgovic, sera-t-elle mise au banc des accusés? Vous le découvrirez bientôt, dit Titania. Alors je vous laisse travailler, bien sûr, pour notre plus grand plaisir, car ce soir, chers raisonnautes, la réalité dépasse encore une fois la fiction. Locard fit un petit signe de tête à Jean, qui enchaîna tandis qu'il rejoignait le fond de la salle. Son intervention terminée, il devait attendre la fin de la manifestation à bord de son véhicule personnel. « Le quatrième accusé est un confrère, dit Jean. Et, plus étrange encore, sa victime l'est également. Greffier, allez chercher maître Bernard Régenville. » La poupée de Régenville ne portait pas la robe d'avocat, mais des lunettes noires. Des armes à feu dépassaient de toutes les poches. « Les chefs d'accusation, meurtre au premier degré sur la personne du juge Malfini et de 4 autres personnes. La parole est à l'accusation. Des photographies officielles de Bernard Régenville défilèrent sur l'écran afin que tout le monde fût bien familier de son visage. « Maître Bernard Régenville a plusieurs cordes à son arc, » dit Titania. « Avocat et tueur à gages. Il est l'homme à tout faire de ma mère, Irina Morgovic. Cette dernière a protégé les intérêts de ses partenaires commerciaux, les dirigeants de la société Hillness, en envoyant son chien de garde dévorer le juge Malfini. « Objection, votre honneur. Il n'y a pas de procès en cours sur la société Hillness. Je demande donc qu'on n'évoque pas cette corporation dans le procès de mon client. » « Nous n'avons pas de preuves formelles les impliquant personnellement, » rétorqua Titania. « Mais il suffit de se demander à qui profite le crime. Régenville a agi sur ordre de sa patronne, qui elle-même est en relation commerciale avec les dirigeants de Hillness. En quoi cela regarde-t-il mon client ? Il s'agit du mobile de son crime, cher maître. Le juge Malfini a été éliminé afin d'étouffer l'affaire du Panacor. » Sur la vidéo qui commençait, les yeux de braise de Laura Malfini captèrent toute l'attention des spectateurs. « J'accuse la société Hillness d'avoir fait pression, de je ne sais quelle manière, sur la police et sur les médias, afin que l'affaire que suivait mon mari soit étouffée, son enquête arrêtée et son nom discrédité. » « Il s'agit là d'une très lourde accusation, Laura. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez là ?»« Malheureusement non, mais une intime conviction. La certitude que mon mari a été piégé. Il a beaucoup hésité avant de se lancer dans l'instruction de cette affaire. Il connaissait les risques et m'en a parlé à plusieurs reprises. » À votre avis, qu'est-ce qui l'a poussé à s'en occuper malgré tout ? Je pense qu'il estimait de son devoir d'éviter que cette pratique se renouvelle à l'avenir. De quelle pratique parlez-vous ? De la pratique qui consiste à créer un virus pour pouvoir vendre le vaccin. Vous accusez la société Hillness d'avoir créé un virus ? Oui. Lequel ? Le V14, celui que seule la société Hillness parvenait à guérir avec son antiviral miracle, le Panacor. Objection, votre honneur ! Cria Mito. « Ce ne sont que des racontars, des on-dit. L'intime conviction de cette femme n'a aucune valeur. » Objection rejetée, maître, car nous avons des preuves. Ce furent les vidéos de surveillance du Rouge Lutèce qui furent diffusées ensuite, accablantes. L'image du tueur à la chemise mouchetée et celle de Régenville posant sur un bateau de croisière se superposèrent à la fin, dans un montage habile qui ne laissait planer aucun doute sur l'identité du meurtrier du juge. « Maître Régenville, » prononça Jean avec une mine sévère, « vous serez pendu haut et court pour cet acte barbare qui se double d'une entrave à la justice. » Dans le moment de flottement qui suivit, alors qu'on installait la potence sur laquelle la poupée devait être pendue, l'attention de Jean fut attirée par des cris, des bruits de moteur et ce qui ressemblait à des coups de feu qui provenaient du dehors. « Ils sont là, » dit-il à Titania, « cache-toi !»« Non, on continue d'émettre jusqu'au dernier moment, » lança-t-elle. À la fois pour Jean et pour les techniciens qui ne savaient pas s'ils devaient continuer. Jean n'avait pas le temps de réfléchir. Les bruits le terrifiaient. Le crime qu'ils avaient convoqué sous forme symbolique, à travers ses poupées, était à leur porte. Il y avait encore le jugement de Blandion et celui d'Irina à mettre en scène, et ils n'auraient jamais le temps de faire les deux. « Votre honneur, donnez-nous les chefs d'accusation d'Irina Morgovic, » réclama Titania d'une voix forte. Des photos d'Irina, seule ou avec sa fille, défilèrent aussitôt sur l'écran. Mais au lieu de la musique électronique qui devait accompagner les images, on entendait surtout des bruits de moteurs, des claquements, des ordres vociférés et des détonations sèches. « Chef d'accusation !» dit Jean d'une voix plus forte pour couvrir les bruits inquiétants du dehors. Il fut coupé par l'un des courtisans qui s'esclaffa. « C'est d'un réalisme époustouflant, les enfants ! J'ai presque peur !» D'autres courtisans, assis au dernier rang, lui demandèrent de se taire, et Jean en entendit un qui lançait « Ça ne fait pas partie du spectacle, imbécile !» Mito, depuis quelques minutes, regardait dans tous les sens. La confusion régnait aussi bien parmi les techniciens que parmi les courtisans. Jean et Titania échangeaient des regards désespérés. Le spectacle était en train de partir en fumée. « Mesdames et messieurs, veuillez garder votre calme. La chaîne Happenings a mis à notre disposition un service d'ordre particulièrement compétent qui semble actuellement essuyer une tentative d'intrusion. Nous avons pleine confiance dans leur capacité. Je vous prie donc de bien vouloir vous rasseoir et de vous taire afin de laisser place au spectacle qui nous rassemble ici ce soir. The show must go on. » « Chef d'accusation, » enchaîna Jean en portant la voix. Irina Morgovic est accusée d'avoir maltraité son enfant Daphné, d'avoir porté un faux témoignage public en présentant comme sa fille une parfaite inconnue, d'avoir dirigé une association de malfaiteurs, d'avoir commandité plusieurs assassinats, celui de 60 HR anonymes, de sa propre fille Daphné Morgovic, du juge Malfini et de ses 4 compagnons notamment. Je l'accuse aussi de vouloir forcer en ce moment précis la porte de la chapelle expiatoire afin de faire interrompre ce procès. La poupée représentant Irina Morgovic était en porcelaine précieuse, avec de longs cheveux qui semblaient vrais et les cils soyeux. La parole est à la déf... Mais Jean ne put terminer sa phrase, car les portes venaient de s'ouvrir avec fracas. Des hommes d'armes s'engouffrèrent dans la chapelle et tirèrent d'abord sur les caméras et le matériel technique. Puis ils firent sortir les techniciens et les courtisans, qui pour beaucoup se firent molester au passage. « C'est inadmissible !» cria le courtisan à la mode des années 2090. « Vous bafouez la liberté d'expression !»«
Et aussi la liberté de circulation !» grogna un homme d'armes. « Déguerpissez !»
Titania, hagarde, se dévêtit de son costume, et Jean et Mito l'imitèrent. S'ils devaient prendre la fuite, mieux valait ne pas s'empêtrer dans leur robe. Jean ne cessait de regarder Titania, observant sur son visage le progrès d'une panique intense, presque animale. Il s'approcha d'elle ainsi que Mito, et ils firent face à la colonne paramilitaire qui avançait comme une marée. Depuis le fond, juchée sur des talons hauts qui la forçaient à se déhancher comme sur le tapis d'un défilé de mode, Irina Morgovic s'approchait, lente, venimeuse, un sourire de triomphe sur ses lèvres fines, elle paraissait presque flotter.
« Que va-t-il se passer maintenant ? » demanda Jean à mi-voix.
« Elle va vous tuer et me capturer. Si vous en doutez une seule seconde, c'est parce que vous ne la connaissez pas. « Et c'est quoi notre plan ?» fit Mito. « Adossez-vous à la porte. Je vais jouer la comédie, » murmura Titania entre ses dents. « Je vais m'approcher d'elle, et quand j'agirai, il faudra que vous soyez très rapide. »«
On sort par la sacristie ?» demanda Jean.
Il n'eut pas l'occasion d'attendre la réponse, car les mercenaires s'étaient alignés pour bloquer leur passage par la sortie principale. Titania s'avança de quelques pas.
« Maman, je savais que tu viendrais. »
Irina parut hésiter un instant sur le ton à adopter, puis elle fut prise au piège de sa propre théâtralité.
« Daphné, ma chérie, j'ai failli ne pas te reconnaître avec ce vilain visage lunaire !»
Un garde fit mine de s'emparer de Titania, et celle-ci le toisa avec mépris.
« Dis à tes molosses de ne pas mettre la patte sur moi !» gronda Titania.
Irina fit un geste imperceptible, et l'homme s'écarta. Titania s'arrêta prudemment à 2 mètres de sa mère, et elles se jaugèrent mutuellement pendant un long moment. Irina n'avait pas changé d'un iota. Elle était exactement identique à ce qu'elle avait toujours été. Titania eut l'impression fugitive qu'elle redevenait une petite fille, sous ce regard immuable. « Tu n'as pas changé, » dit-elle avec admiration.
« Je ne peux pas en dire autant de toi. »«
Maman, écoute-moi. Je ne veux pas que tu leur fasses de mal à eux. Je suis prête à accepter tes conditions. » Irina observa un silence. « Ne les accepte pas avant de les connaître, » dit Irina. Ou tu ne seras jamais une femme d'affaires.
Je ne suis pas une femme d'affaires, maman.
Oh, mais je n'en suis pas si sûre. Regarde ton succès, tes courtisans. Tu as tout arrangé avec un talent fou. Tu as même réussi à arnaquer Morgan Corp.
N'es-tu pas contente que je sois vivante ?
Irina eut un sourire indéchiffrable.
Si, bien sûr, tu m'as tellement manqué.
Alors, elle ouvrit les bras, et Titania s'y précipita sans réfléchir. Un torrent d'émotions contradictoires l'empêchait de penser. Elle était à la fois la Titania qui avait prévu de frapper son ennemi et la petite Daphné qui retrouvait sa mère. L'étreinte d'Irina se faisait de plus en plus forte, et Titania commença à comprendre ce qui se passait lorsque sa mère lança à ses gardes. « Emparez-vous d'eux, il ne faut pas laisser de traces sur le lieu du tournage. » Titania alors essaya de se dégager, mais elle rencontra une résistance inattendue, étrange. Les bras de sa mère qui la ceinturaient semblait dur comme de l'acier.
« Qu'as-tu fait ?» demanda Titania.
« Oh ça, c'est un implant très pratique qui permet d'avoir une poigne de fer sans trop se fatiguer. » Le visage d'Irina était juste au-dessus du sien et elle pouvait voir son sourire s'épanouir à quelques centimètres de ses yeux.
« Que vas-tu faire de Jean ?»«
Oh, je suis sûre qu'il a des organes en parfait état, non ? Qu'en dis-tu ? Tu le connais mieux que moi ?»
Dans cette horrible étreinte forcée, Titania avait la main gauche autour du cou de sa mère. Elle ferma les yeux, pensa à Jean, à ses poèmes, à leur rencontre à la fontaine Stravinsky, à leur amour sur l'île de Lormé. Puis elle revit la clinique, où elle avait failli perdre la vie, et ce fut par instinct, sans réellement y penser, qu'elle actionna les griffes de sa main gauche,
au niveau de la nuque délicate d'Irina. Elle sentit la résistance de la chair, puis l'étreinte des bras de fer presque aussitôt se desserrer. Alors elle écarta sa main pour dégager les lames, et le sang se mit à jaillir à longs jets effrayants. Irina, les yeux écarquillés d'incrédulité, mourait. Ce fut Titania qui poussa le cri déchirant qui sema la confusion chez les gardes. La vue de leur maîtresse à l'agonie les arrêta dans leurs mouvements. Mytho s'époumonait pour appeler Titania, mais elle ne semblait pas l'entendre. Jean se demanda s'il fallait aller la chercher au risque de se faire attraper avec elle, puis il eut une intuition fulgurante qu'il ne s'expliqua jamais vraiment par la suite. « Daphné !» hurla-t-il. À l'appel de son véritable nom, Titania se retourna et Jean la vit, ensanglantée, désorientée, toute griffe dehors. « Daphné, viens par ici !» Elle posa un baiser rapide sur la joue de sa mère et courut vers eux. Un garde essaya de l'attraper au passage, mais presto comme un chat, elle lui griffa le bras. « Ne te fatigue pas, dit un autre, on ne sait même pas si on sera payé. » Mytho ouvrit la porte de la sacristie et Jean attrapa la main droite de Titania pour l'entraîner dehors. Elle se laissa faire, docile, sans poser de questions. La porte arrière de la chapelle donnait sur un jardin obscur, entouré de murs. Une lumière aveuglante les inonda soudain, et ils levèrent la tête vers un VP en vol semi-stationnaire au-dessus d'eux. « Si c'est Régenville, on est mort, dit Jean. » « Mais il y a un dieu pour les rebelles, dit Mytho, c'est Locard !» Le VP, en effet, était peint aux couleurs de Happenings, et quand la porte s'ouvrit, ce fut un Locard particulièrement volubile qui les pressa d'entrer. Jean mit un certain temps à comprendre qu'il était en train d'émettre en direct et dut se mordre la lèvre pour ne pas s'énerver contre l'homme qui venait de les sauver. Tandis que le VP prenait de la hauteur et que Locard débitait ses sornettes grandiloquentes, Mytho regardait par la fenêtre. De son côté, Jean essayait de réconforter Titania. Il était inquiet. « Vise un peu en bas, dit Mytho. C'est notre ami Régenville. » L'incroyable résilience de ces jeunes gens pacifistes, de cette jeune fille martyrisée par sa propre mère, dont le visage baigné de sang et de larmes, conserve encore l'empreinte d'une ineffable beauté. « Mytho, murmura Jean, il y a quelque chose qui ne va pas avec Titania. Elle est blessée ? Du courage des plus grands, de la vertu d'une autre époque. Non, je ne crois pas. Telle la colombe tachée de sang, fauchée dans la fleur éclatante de son vol. Qu'est-ce qu'elle a ? Titania, recroquevillée en position fœtale, regardait ses compagnons par en dessous avec une expression à la fois curieuse et fatiguée. Elle n'avait toujours pas rentré ses griffes et jouait à faire des rayures sur le cuir impeccable du siège. Ses cheveux mouchetés de rouge étaient collés sur sa tempe et Jean lui dégagea le visage tendrement, si bien qu'elle lui sourit pour le remercier. Ses yeux profonds et brillants n'exprimaient rien d'autre qu'une infinie innocence. Et quelques instants plus tard, le sommeil la prit sans qu'elle ait prononcé un seul mot.